Les amateurs d'histoire sont conviés au Rendez-vous d'histoire de Québec en fin de semaine. C'est une série de conférences gratuites présentées à la Maison de la littérature, au Morin Center et à l'Îlot des Palais. Mes prochains invités vont être là demain pour un duel d'historiens sans pitié. Dans le coin droit, Catherine Ferland, l'histoire des biscuits de Claire. Et dans le coin gauche, Dave Corriveau et celle des petits gâteaux Vachon. Ils sont avec nous à studio. Bonjour, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Avant d'aborder les sucreries, je veux qu'on revienne un peu sur une conférence qui était présentée cet après-midi, celle d'Éric Thierry, les docteurs de l'Université de Paris-Sorbonne, quand même. Mm-hmm. Et il arrivait à Québec pour la première fois avec un manuscrit inédit de Samuel de Champlain. Je sais que ça a fait le tour des médias cette semaine. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette présentation-là?
Bien, en fait, c'est que c'est notre conférencier vedette.
Oui.
C'est une première, on pourrait dire, au niveau mondial, parce que c'est une nouvelle, un nouveau manuscrit comme ça qui est attribué à Samuel de Champlain. Et ce qu'on se rend compte, c'est que par le contenu et tout ça, ça amène des nouvelles connaissances. Puis on le sait, Champlain, c'est le père de la Nouvelle-France, oui. C'est le père de Québec, fondateur de Québec. Mais on ne sait pas grand-chose sur le gars lui-même. Hein? On ne sait même pas où il est enterré. Il y a encore beaucoup de mystères autour de lui. Puis bon, ben ça, c'est un nouveau manuscrit qui va peut-être nous permettre d'avoir certains indices là, pour mieux comprendre le bonhomme.
Là, c'est une trentaine de pages, si je comprends bien.
Oui.
Qu'est-ce qu'on apprend? Ça concernait quoi, ce manuscrit-là?
C'est un manuscrit qu'on est capable de dater d'environ 1602-1603,
okay.
D'après certains indices qui sont dedans. Et à partir aussi des indices qui sont livrés, on est capable de dire, bon, c'est quelqu'un qui connaissait très, très, très bien la géographie de tout le littoral quand on se déplace, les différentes baies, les différentes rivières et tout ça.
Mm-hmm.
Donc, la topographie, c'est quelque chose qu'il connaissait bien. Puis
okay.
À l'époque, on s'entend, bon, déjà, l'Internet, évidemment, n'existe pas.
Oh, oui.
Évidemment, il n'y a pas l'imprimerie non plus là, qui mm-hmm. dissémine
aussi facilement. Donc, il fallait dessiner nos cartes.
Bien, on dessine les cartes. Il y a des procédés de reproduction, mais on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui a accès aux connaissances.
Ouais.
Et là, on a visiblement face à quelqu'un qui connaissait très, très, très bien le sujet. Donc, de fil en aiguille, analyse graphologique également, des documents, on est capable de dire ça semble bien être le premier manuscrit de Samuel de Champlain.
OK, donc on cherche encore le tombeau, on l'a pas trouvé celui-là, mais on a un manuscrit entre les mains selon ce que nous dit Monsieur Thierry, donc il était là cet après-midi pour les rendez-vous d'histoire. Deux entreprises québécoises vont être à l'honneur demain après-midi au Morin Center, Biscuits Leclerc et Gâteaux Vachon. On va y aller en ordre chronologique si vous le voulez bien. Donc Catherine, tu as la première des deux.
Hey, oui.
c'est évidemment les Biscuits Leclerc. Et là, ils sont installés du côté de Saint-Augustin, mais ça a commencé sur la rue Arago, si je comprends
oui,
bien.
Oui, sur la rue Arago. Donc, c'est vraiment une entreprise familiale. 1905, on a François Leclerc qui arrive de l'île d'Orléans, qui s'est installé à Québec à l'âge de 18 ans, qui a fait son petit bonhomme de chemin. Et là, à un moment donné, bon, il est père de famille, il demande une augmentation de salaire, ça fonctionne pas. Il dit, ben, coudonc, je démarre ma biscuiterie. Donc, c'est de fil en aiguille devenu ce qu'on sait maintenant, une entreprise qui est encore basée dans
ouais.
la région de Québec. Hein, c'est vrai, c'est à Saint-Augustin maintenant, mais ils sont très, très fiers d'avoir encore le siège social ici.
Donc, 1905, est-ce qu'assez rapidement, on s'est mis à vendre les produits à l'extérieur du quartier Saint-Roch?
Oui. Ah oui, oui, très rapidement. Au début, évidemment, les épiceries locales, les épiciers, hein, comme
hein?
on disait à l'époque. Mais ensuite, bon, ça s'est retrouvé un petit peu partout. On en retrouvait facilement dans le bas du fleuve, vers Montréal également.
Okay.
Il y avait beaucoup, beaucoup de concurrence. Dans les années où François Leclerc démarre tout ça, c'est des dizaines et des dizaines d'entreprises de biscuits là, qui sont sur le
et là, on fait ça à l'échelle locale, évidemment.
Mais oui, tout est fait ici, tout est fait à la main. Puis assez rapidement, ben finalement, il réussit à avoir le dessus sur toute la concurrence.
Mm-hmm. Les enfants ont grandi entourés de biscuits, puis assez rapidement, ils sont impliqués dans la business qui est devenue une business familiale. C'est encore des Leclerc qui ont ça aujourd'hui?
Absolument. C'est encore des Leclerc. C'est la quatrième génération, puis bientôt la cinquième qui s'occupe encore de l'entreprise. Ça, il faut le faire. Hein.
Mm-hmm.
Je veux dire, une entreprise qui perdure au sein du même groupe familial comme ça,
oui.
Il n'y en a pas tant que ça.
Puis le premier déménagement de l'entreprise, ça a eu lieu après un incendie. Qu'est-ce
oui.
qui s'est passé à ce moment-là?
C'est en 1931, un incendie qui a ravagé quand même plusieurs commerces et domiciles en basse-ville. Et d'origine, en tout cas, il semblerait que c'est une négligence. Là. C'est quelqu'un qui ne travaillait pas correctement. Il faut dire que les normes du okay. travail dans les années 30...
Ouais, c'était pas tout à fait 2018, là,
mais
effectivement.
Oui. Mais pour se donner une idée, là, dans ces années-là, quand ça flambait.
Ouais.
Hein, c'est des quartiers où on construisait beaucoup en bois. Donc souvent, ce qui restait, c'était les cheminées en maçonnerie. Puis
mm-hmm.
quelques pièces comme ça, mais c'était épouvantable. Donc, ils se sont réinstallés, cette fois-là, sur la rue Saint-Vallier.
Okay.
Ils ont racheté un commerce qui existait et qui avait fait faillite, et ils se sont installés là-dedans. Et ça, c'était intéressant parce que, tu vois, Jean-François, ça, c'est une typicité, on pourrait dire, de l'entreprise Leclerc. C'est souvent de racheter des installations existantes et de les adapter. Donc, en installant leur propre
okay.
chaîne de montage à l'époque,
uh-huh.
bon, ils ont réussi comme ça à se refaire.
Et là, les années 30 et 40, ça a amené leur lot de défis, évidemment. Il y a eu la Grande Dépression. Il y il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Comment ça a affecté la business?
Ça a affecté la business, en fait, oui et non, parce que, oui, en plus, en 1939, le fondateur décède, mais heureusement, il avait très, très bien préparé sa succession. Donc, ce sont ses deux fils, Donna et Albini Leclerc, qui ont repris ça. Mm-hmm. Et comme ils étaient déjà dans l'entreprise, à l'époque, ça faisait déjà une quinzaine d'années qu'ils s'impliquaient activement dans l'entreprise, la transition s'est quand même bien faite. Et là, bon, quand c'est la guerre, c'est la guerre. Dave va pouvoir en parler aussi pour les petits gâteaux Vachon, mais c'est sûr qu'avec le rationnement, les gens se faisaient dire, ben, ménager le sucre, ménager le gras, ménager la farine. Alors, ils ont réussi quand même à très, très bien s'en sortir en changeant un petit peu les recettes là pour s'adapter.
Dave, maintenant, vous achevez l'écriture d'un ouvrage sur les gâteaux Vachon. C'est des fermiers qui sont derrière le succès qu'on connaît.
Au départ, oui. Au départ, Joseph Arcade et Rosanne Vachon étaient des fermiers à Saint-Patrice de Beaurivage. Et puis, à un moment donné, ils entendent parler qu'il y a une veuve qui veut vendre sa boulangerie à Sainte-Marie-de-Beauce. Et comme Rosanna, elle, était comme une bonne mère à l'époque, très en amour avec ses enfants, elle voulait ramener ses enfants à la maison, ramener ses fils qui s'étaient exilés aux États-Unis pour avoir de meilleurs emplois, parce que la terre à Saint-Patrice de Beaurivage était simplement pas assez fructueuse et grande pour pouvoir donner un avenir intéressant aux enfants. Donc, elle dit, OK, on va se partir en business à cet endroit-là, à Sainte-Marie, puis on va essayer de ramener nos gars les uns après les autres. Et après quelques années, ça a fini par faire boule de neige. Ils ont finalement réussi à tous revenir à la maison à peu de choses près.
Donc, l'opération de Mme Giroux a fonctionné.
Tout à fait.
Et puis là, le Joe Louis, c'est le porte-étendard de la marque Vachon. Puis j'ai l'impression que c'est venu quand même assez tôt dans l'histoire de l'entreprise.
C'est venu en 1932, d'après ce que j'ai trouvé comme information. L'histoire est assez simple. Paul Vachon, qui était le grand Manitou à ce moment-là, l'un des enfants du couple Vachon. Paul était le grand Manitou des...
Le
patenteux, carrément.
En chef, oui. Okay.
Un patenteux en chef. C'est lui qui s'occupait de faire les nouveaux gâteaux, de confectionner les gâteaux à différentes échelles. Puis il voulait un nouveau gâteau qui avait une certaine forme de quoi qui allait être accrocheur. Okay. Puis, il y avait une pâte chocolatée devant lui et selon la légende qu'on m'a racontée à bien des reprises quand j'étais petit, c'est il aurait pris un couvercle de poudre à pâte, il aurait fait « je prends un morceau, je découpe un morceau, je les mets ensemble avec une crème pâtissière au milieu et voilà, le Joe Louis était né. »
C'est assez simple quand même.
C'est simple, mais ça a été accrocheur. Le gâteau a gagné en popularité de façon phénoménale. C'est encore, entre guillemets, le vaisseau amiral de la pâtisserie Vachon de nos jours.
Catherine le disait, la Seconde Guerre mondiale, ça a eu des implications pour toutes les entreprises au Canada, évidemment. De quelle façon est-ce que ça a affecté les gâteaux Vachon?
Ça a affecté quand même les Vachon quand même pas mal parce que, bon, eux autres, comme les biscuits Leclerc, ils avaient besoin de sucre et de graisse et tout ça. Bon, ils réussissaient à s'organiser avec la graisse puis bon l'essence pour les voitures, pour les livraisons. Mm-hmm. Mais pour le sucre, ils ont dû jouer, disons... on garde ça entre nous autres. Disons qu'ils ont fait affaire avec le marché au noir pour avoir du sucre.
Ils sont allés par en dessous.
Au départ, ils ont essayé de tricher avec les coupons de rationnement. Ils se sont fait prendre, malheureusement. Ils ont dû payer 300$ d'amende. Et après, ils ont fait, OK, on va y aller au marché au noir. On va acheter du sucre. Puis au lieu de les ramener carrément à la pâtisserie, on va les loger dans des chalets autour de Sainte-Marie.
Ils cachaient tout ça comme si c'était illicite.
C'est carrément illicite pour l'époque. Et la nuit, c'est là qu'ils prenaient le sucre dans les chalets puis ils le ramenaient à l'intérieur de la pâtisserie, ni vu ni connu, sous le couvert.
C'est ingénieux quand même.
Système D, puis les frères Vachon étaient assez forts sur le sujet.
OK. Dans l'histoire de Vachon, j'ai appris que Desjardins avait mis la main là-dessus. Dans quel contexte est-ce que ça s'est opéré, cette transaction-là?
Après la grève de 1969 à la pâtisserie Vachon, la première grève qui a eu lieu, les deux frères Vachon restants, Paul et Benoît, étaient un peu fatigués. Ils ont passé carrément leur vie à travailler pour l'entreprise familiale. Mm-hmm. Et puis, ils n'avaient pas de relève, malheureusement, pour assurer la continuité selon leur bon vouloir. Donc, ils ont commencé à chercher des acheteurs. Il y a eu Beatrice Food, qui était une compagnie américaine qui voulait se porter acquéreur. Et là, il y a des gens qui ont fait « Non, on ne peut pas laisser des Américains.
Encore un fleuron québécois qu'il fallait sauver. C'est ça. Là, Ronan, on fait tous les temps parce que ça a été vendu, mais c'était également le cas au début des années 70.
Exactement ça. Le temps était au nationalisme et vendre des... ça aux Américains, c'était absolument impensable.
Inconcevable,
ça te donne l'urticaire même à des gens. Donc, après plusieurs approches, et même l'intervention du premier ministre de l'époque, Jean-Jacques Bertrand, c'est finalement le mouvement Desjardins qui a mis la main sur la majorité des actifs de la partie Vachon.
OK. Je veux pas brûler tous les punchs à votre conférence demain, mais quand même, Catherine, vous êtes aussi la présidente des Rendez-vous.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a comme conférence en fin de semaine pour inviter les gens?
Ah, on a de tout. Ça, c'est drôle à dire, mais on l'a conçu un petit peu comme une table avec plein de petites tapas dessus, là. Fait qu'on va aller piger un peu ce qui nous tente. On a un beau bloc de conférences qui vont porter sur des aspects inédits des Première et Deuxième Guerres mondiales.
Okay.
Donc, par exemple, les sous-marins allemands qui se promenaient autour d'Anticosti pendant la Deuxième Guerre. Les gens qui ont profité de la guerre aussi. Hein, on vient d'en parler, là, c'est pas facile. Il y a des gens qui réussissent à abuser de ce système-là en étant plus débrouillards que d'autres.
Ouais.
Alors, on va parler de ça également. Et le fameux trésor de la Pologne qui se retrouvait à Québec, qui a été caché. Donc, pour en savoir plus, je vous invite à venir voir ça demain. Et évidemment, bon, notre duel d'historiens, c'est certain, ça va être impitoyable.
Oh, clairement que ça va être impitoyable.
Pour la petite histoire, c'est mon conjoint en plus.
Ouais, ça va brasser dans la chaumière à soir avant de brasser demain sur, dans la salle de conférence.
Et demain, dans votre cas, c'est à 14h au Marin Center.
Au Marin Center. On a des choses aussi qui ont lieu à la Maison de la littérature. Entre autres, des blocs qui portent beaucoup sur comment on peut transmettre des savoirs historiques à travers le roman historique et la BD également. Donc, c'est d'autres façons comme ça de parler d'histoire. C'est absolument fascinant parce que là, on a l'occasion de rencontrer des créateurs. Comment, c'est quoi leur démarche et tout ça en format table ronde. Donc ça va être très, très intéressant aussi. En
c'est fait, pas des cours magistraux de 3 heures non plus.
Non, des conférences
plus courtes.
Des conférences plus courtes, exactement. Donc, on vise 30, 40 minutes, des périodes de questions. On a le temps de respirer. On a le temps d'aller jaser aussi avec les conférenciers. Bref, c'est un très, très beau programme. On est très, très fiers de cette programmation-là pour les premiers rendez-vous.
La programmation complète de l'événement est au rendez-vous-histoire-québec.com. Merci d'être passé à studio.
C'est nous qui vous remercions.
Ça fait plaisir. Catherine Ferland, elle est présidente des Rendez-vous d'Histoire, spécialiste d'histoire culturelle et gourmande. Il y avait également Dave Corriveau, historien et sociologue.